Patricia Martin, votre invité, le sociologue spécialiste du corps, David Le Breton.
Bonjour David Le Breton.
Bonjour Patricia.
Le confinement, puisque c'est de ça qu'on va parler, le confinement a sur nous des effets dont on ne prend peut-être pas toujours la mesure immédiatement, c'est-à-dire en ce moment même, mais c'est un peu comme si on communiquait les uns avec les autres sans corps.
Oui, effectivement, sans corps, sans visage. C'est pour ça que j'ai parfois pris la métaphore des hikikomori, hein, vous savez, ces jeunes japonais qui s'enferment dans leur chambre pendant des mois ou des années et qui donc refusent de voir leurs parents, de voir leurs proches, mais en revanche, qui sont en communication avec le monde entier à travers les réseaux sociaux, à travers les outils, à travers tous les outils numériques qui sont les nôtres. Mais en même temps, donc, c'est une communication qui n'a pas de visage, qui n'a pas de corps, qui n'a pas de présence. Et c'est un peu à cette communication-là que nous sommes aujourd'hui contraints.
Dans un livre, David Le Breton, que vous avez écrit, « Disparaître de soi », il y a, vous parlez de ce souhait de ne plus communiquer, de ne plus se projeter dans le temps. Est-ce que c'est un risque que nous courons, le fait de se retirer un petit peu du monde, d'arrêter de vouloir tout maîtriser? D'ailleurs, on entend des gens ici et là qui disent par exemple qu'ils veulent changer de boulot.
Oui. Ah, je pense que le confinement est une sorte de révélateur, évidemment. Donc, pour un certain nombre de gens, c'est plutôt une immense frustration. C'est l'immense désir de sortir, de retrouver l'horizon, de retrouver des contacts avec les autres. Ah, parce que finalement, le confinement nous rappelle aussi le prix des choses sans prix. C'est-à-dire de toutes ces petites choses auxquelles nous ne prêtions aucune importance et qui finalement sont tellement vitales dans nos existences. Ah, le simple fait d'avoir une liberté de mouvement, par exemple, de se lever à sa guise, d'aller prendre un café à une terrasse. Mais pour d'autres, en revanche, évidemment, le confinement est plutôt une plongée dans des souffrances, dans une intériorité qui n'est pas toujours la plus heureuse. Donc, pour un certain nombre de gens, c'est plutôt une manière de se morfondre, éventuellement même une manière de disparaître, effectivement, parce que pendant le confinement, on est libéré de toutes les contraintes de communication, de toutes les responsabilités qui sont les nôtres au plan social, professionnel, amical, etc. Mais je pense que nous pouvons sortir évidemment grandis de cette épreuve. Elle nous met au pied du mur, elle nous contraint à puiser en nous des ressources que parfois nous ignorions. Donc, je crois qu'on se révèle à soi-même aussi, on découvre des tas de choses. Ce qui sera important peut-être lors du déconfinement, c'est cette renaissance à soi, cette jubilation finalement de retrouver les autres, de retrouver une liberté de mouvement dont on a été privé pendant presque 2 mois.
Liberté de mouvement, certes, mais le port du masque, ça va quand même changer nos relations sociales, les rapports entre nous.
Là, Patricia, je vous confesse que c'est mon inquiétude la plus grande. Ouais. C'est mon inquiétude la plus grande parce que le visage est vraiment le lieu de la reconnaissance de l'autre. C'est à travers notre visage que nous sommes nommés, que nous sommes reconnus, que nous sommes identifiés à un sexe, à un âge, à une qualité de séduction, etc., etc. Mais le visage, c'est aussi le lieu où l'on doit répondre de ses actes. Hein, parfois, quand on a la tentation de faire quelque chose qui n'est pas très chouette, on se dit oui, mais si je le fais, je ne vais plus pouvoir me regarder en face. Et là, nous allons finalement entrer dans un univers de spectre, dans un univers de masques. Et d'un point de vue anthropologique, j'ai écrit un livre sur le visage aussi, et j'avais été frappé par le fait que le masque nous libère de toutes nos responsabilités. C'est-à-dire que le masque induit immédiatement le désir de transgression, puisque finalement vous devenez également méconnaissable, vous n'avez plus à rendre compte de vos actes, vous êtes anonyme dans le paysage. Voilà, c'est ça qui m'inquiète, cette communication qui se fera sans suivre également les mimiques qui traversent le visage de l'autre, alors qu'elles sont tellement importantes, par exemple, dans la conversation. Parler à quelqu'un, c'est regarder les résonances de son visage par rapport aux propos qu'on lui tient.
C'est tout le métalangage. Mais est-ce qu'il y a un risque de distanciation, même entre proches?
Oui, je pense, mais on le voit déjà aujourd'hui quand on se promène dans la rue, quand on fait un peu d'exercice physique ou autre. À partir du moment où on est masqué, les gens font 3 mètres de cette distance de vous de 3 mètres. Regardez les queues devant les boutiques. Au lieu de se mettre les uns derrière les autres à 1 mètre, vous avez parfois une sorte d'éventail de personnes qui sont à 4-5 mètres les unes des autres, ce qui fait que vous ne savez plus très bien où vous en êtes. Le masque anonymise effectivement nos relations mutuelles. et donc créer des difficultés finalement dans la relation.
On parle depuis le début du confinement de distanciation sociale, ce qui d'ailleurs, à titre personnel, m'a beaucoup choqué. Mais l'autre jour, le Premier ministre a parlé de distanciation physique. Moi, je trouve que c'est quand même plus normal de parler de ça. Mais cet humanisme social, il est déjà mis à mal finalement depuis un moment, non ?
Oui, alors je partage totalement votre point de vue. C'est plutôt d'une distance physique qu'il faut parler. Bon, c'est une distance évidemment qui a été bien étudiée aussi en anthropologie, notamment avec des anthropologues comme Edward Hall. Hein, c'est ce qu'il appelle la proxémie et qui implique donc que quand on parle à quelqu'un, on se tient à une certaine distance. Mais c'est pas du tout une distance sociale, évidemment. C'est une distance sociale qui renverra à des inégalités, à des différences de conditions, etc. C'est une mesure bien physique, entre guillemets, qui doit autoriser l'échange, le contact, la parole, et en même temps sans qu'on éprouve un sentiment d'invasion. Voilà.
Chez les ados, est-ce que, et a fortiori chez les enfants, est-ce que les conséquences seront encore plus importantes ou bien est-ce que finalement ils vont oublier au bout d'un moment ?
Je pense que pour bon nombre d'enfants, le confinement aurait été un calvaire. Hein. Comme j'ai beaucoup travaillé plutôt sur les adolescents en souffrance ou les enfants en souffrance, on peut penser que beaucoup d'enfants aujourd'hui, qui ne sont pas véritablement aimés, qui parfois subissent des maltraitances, parfois même des abus sexuels, auront été livrés pendant un long moment à leurs prédateurs. Hein. Pour les ados, et puis en plus pour des enfants qui sont heureux de vivre, qui vivent avec des parents aimants, c'est quand même extrêmement difficile de rester cantonné dans un micro-espace, alors que l'enfance, par définition, c'est quand même la jubilation d'être, ce sont les grands espaces, c'est le désir de la dépense, etc. Pour les ados, je sais que c'est aussi extrêmement dur. D'ailleurs, dans les foyers, dans les institutions, vous savez qu'il y a eu énormément de fugues. Hein. Beaucoup d'ados ont fugué et puis sont rentrés après quelques heures ou quelques jours. Mais on comprend effectivement que cet enfermement soit absolument intolérable quand on est en plus en train de devenir un homme et une femme et qu'on a une curiosité infinie envers le monde et il faut rester malgré tout cantonné auprès de ses parents, même si on les aime. C'est l'âge où on commence à prendre son envol et on se détache évidemment de la tutelle parentale.
En tout cas, on espère que nous retrouverons tous la joie. David Le Breton, merci. Je rappelle que vous êtes anthropologue, sociologue, chercheur à l'Université de Strasbourg et auteur d'un certain nombre de livres, on va dire. Il y en a beaucoup. Merci à vous.